Lundi dernier, les faucheurs volontaires d'OGM ont appelé à un rassemblement devant la gendarmerie de Figeac, car deux d'entre eux étaient convoqués pour avoir participé à deux actions. Il s'agit de Philippe Couliou et Rémi Pesant, qui étaient convoqués à partir de 14h30 pour justifier de deux actions. La première, le 19 août 2021, à Ambérac, dans le département de l'Aveyron, où des faucheuses et faucheurs volontaires ont mis hors d'état de nuire une partie de parcelles de tournesol imbibées de pesticides destinées à la production de semences. La deuxième action, qui s'est déroulée le 10 novembre 2021, a rassemblé environ 70 faucheurs volontaires et ils ont effectué une visite citoyenne dans un local de la RAGT à Calmont, toujours dans le département de l'Aveyron, et où ils ont trouvé écrevé l'abcès de quelques big bags emplis de ces mêmes semences mortifères. Alors, lanceur d'alerte, relaxé et reconnu en état de nécessité pour une action identique par le tribunal de Perpignan en 2021, ils donnent, comme d'habitude, leur identité aux forces de l'ordre. Ces semences de tournesol sont identifiées RGT Vulcano CLP, une espèce de variété rendue tolérante aux herbicides, les VRTH, commercialisées par la société RAGT, dont le siège social est à Rodez. Ces VRTH sont classés OGM par un arrêté de la Cour de justice de l'Union européenne en juillet 2018, ce qui est confirmé par le Conseil d'État français en février 2020. Sauf à être analysés, étiquetés et tracés ayant obtenu autorisation, ce n'est pas le cas en France. Elles sont interdites de culture et de commercialisation. Le Conseil d'État a engagé des poursuites contre le gouvernement de messieurs Macron, de Normandie et compagnie, car voilà plus de deux ans que ces gens-là sont hors la loi. Alors nous avons attendu Philippe et Rémi à la sortie de la gendarmerie, lundi 25 avril, et ils nous en disent plus sur leur action.
Alors d'abord, on n'est pas présumé. Parce qu'on est faucheur assumé. On est présumé, on ne sait pas encore quoi. Si, participant à une action où on a été démontré une fois de plus que des VRTH, donc des variétés rendues tolérantes aux herbicides, interdites par l'Europe depuis 2018, que le Conseil d'État a validé cette décision.
Donc le Conseil d'État a confirmé décision de la Cour européenne de justice en février 2020. Il avait enjoint le gouvernement de faire une réglementation sur ces OGM qu'on appelait avant cachés mais qui ne sont plus. Et donc il devait les réglementer pour éventuellement les autoriser à condition qu'elles soient analysées et du coup étiquetées, tracées, etc. Ce qui n'est absolument pas le cas en France. Et de toute manière, ils n'ont rien fait. Donc il y a deux ans que ce gouvernement est hors la loi et le Conseil d'État a engagé une procédure contre le gouvernement. On en est là. Donc nous, on fait le boulot que l'État ne fait pas, en gros.
Et donc vous avez été entendu par les gendarmes, qu'est-ce que vous aviez à déclarer ?
Comme d'habitude, on n'a rien à déclarer, parce que c'est pas aux gendarmes qu'on va expliquer le pourquoi du comment. C'est si jamais on a une tribune, si jamais déjà à travers les médias, donc on vous en parle déjà à vous, et puis aussi avoir une tribune au niveau de la justice, puisqu'on espère encore que la justice fasse son travail, puisque l'État ne le fait pas, le gouvernement ne le fait pas, il est hors la loi. Dans tous les sens du terme, et continue à nous empoisonner. Le président actuel va encore nous réempoisonner puisque c'est le même qui continue pendant 5 ans. Ces 5 ans où il a continué à avoir des décisions liberticides et écocidaires à plein de niveaux, en réduisant les distances de d'épandage de pesticides, en essayant de faire changer la loi, puisqu'on voit très bien, je veux dire, que Julien de Normandie, on ne sait pas où est-ce qu'il a fait son boulot de ministre de l'Agriculture. On voit un boulot de lobbyiste, mais on ne voit pas un boulot de ministre de l'Agriculture.
Oui, ils sont revenus aussi sur un texte qui avait pourtant été voté 2 ou 3 ans auparavant, en réautorisant pour les betteraviers les néonicotinoïdes, qui sont des poisons graves pour les abeilles dont on a tant besoin. Donc tout ça pour faire de la betterave industrielle sucrière, alors que tous les médecins vous diront qu'il faut arrêter de bouffer du sucre. Mais non, là au contraire on va en cultiver un peu plus, quitte à l'exporter, et en tuant les abeilles. Ils avaient eux-mêmes voté une loi pour l'interdire, et là ils ont profité d'un confinement là pour le réautoriser. Ils ont vraiment tout faux, ce sont des salopards.
Donc les faucheurs sont des lanceurs d'alerte, en quelque sorte.
On est des lanceurs d'alerte et on se revendique comme ça. Puisque c'est effectivement, on est obligé d'informer la population qui malheureusement n'est pas informée parce que déjà les médias, de toute façon les grands médias, je veux dire, s'auto-censurent eux-mêmes, donc ils ne parlent même pas de ces sujets-là.
Et la suite à donner à cette intervention là aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir un procès ou pas?
Ça, on ne sait pas. La RAGT, chez qui on a détruit un peu de leurs semences mortifères, là, a porté plainte auprès du procureur de Rodez, vu que ça se passe là-bas en Aveyron. Et après, le procureur a envoyé dans différentes gendarmeries des convocations, comme celle de Philippe et moi aujourd'hui. Il y en a d'autres, hein, dans d'autres départements. On doit être 15 ou 20 faucheurs, je crois, je ne sais pas le nombre, convoqués depuis quelques mois. On ne sait pas du tout si ça aboutira à un procès. Mais on espère, on veut un procès contre la RAGT. Mais est-ce qu'eux vont oser le faire? Parce qu'ils ont tellement de tort. Et puis on sait se défendre, et puis on a de bons avocats, et puis on a toujours des témoins extraordinaires. Donc je pense pour le moment ils portent plainte, ils le font systématiquement. Ça fait de la paperasse, ça fait des convocations. S'ils vont jusqu'au procès, on sera très contents.
Et ce qu'on aimerait surtout, c'est qu'il y ait des procès pour là des actions qui elles, n'ont jamais donné suite à des plaintes. C'est les actions qu'on fait donc, sur les importations d'OGM. Puisque, je veux dire, effectivement, logiquement, on n'en cultive pas beaucoup en France, mais on alimente tout le bétail avec ces OGM qui viennent d'Amérique latine, du Canada, etc. Et quand il y a eu des actions où c'était des milliers de tonnes qui ont été foutues en l'air par des actions des faucheurs, il n'y a jamais eu de plainte, on n'en a jamais parlé. Et c'est ça qui serait intéressant de sensibiliser le grand public, dire attention, vous croyez qu'on vous protège, mais ils se foutent complètement de vous, puisque par derrière, ils alimentent tout le bétail avec des OGM. Voilà, c'est tout.
Oui, ça je peux compléter. Effectivement, en 2016, on a détruit 3000 tonnes de soja transgénique dans le port de Saint-Nazaire, dans un bâtiment industriel, 3000 tonnes. Ça a été évalué par des camarades paysans à 1 500 000 euros. Il n'y a même pas eu de plainte. En gros, ça veut dire que le propriétaire, l'importateur, etc., le responsable de la FNSEA locale, etc., ont reçu tout simplement un coup de fil de l'État. Puisque la FNSEA et le ministère de l'Agriculture, comme le disait si bien Philippe tout à l'heure, c'est la même chose, quoi. Voilà. Aujourd'hui, on en est là, c'est la même chose. Donc, attention, les Français ne sont que très, très peu nombreux à être au courant des importations. Il ne faut pas que ça se sache. Donc, omerta. On peut détruire des quantités énormes. Faut pas que ça se sache. On en est là, c'est quand même gravissime. Et effectivement, ce soja, c'est plus de 5 millions de tonnes par an qui arrivent en France dans 4 ports, Brest, Saint-Nazaire, Lorient et Sète. Et ça nourrit tous les animaux d'élevage qu'on bouffe, tous, sauf évidemment le bio qui n'a pas le droit, et quelques tout petits labels qui s'empressent à juste titre de marquer « nourri sans OGM ». Mais tout ce que mangent 95% des Français, c'est bourré de pesticides. On s'étonne qu'il y ait combien 500 000 nouveaux cancers par an en France. Ah, et le glyphosate, on n'a pas parlé. Ils sont en train de le réautoriser. En fait, du moins, la demande expirée est là. Et il faut que d'ici la fin de l'année, décembre 2022, ce soit enfin interdit ou réautorisé. Et là, c'est pareil, il y a une omerta là-dessus. Et les fabricants, cette fois-ci, demandent carrément une réautorisation pour 15 ans. Alors comme ça, ils obtiendront 5 ans. C'est comme ça que ça fonctionne.
Alors pour revenir sur le glyphosate et surtout donc le grand public, c'est lui qui a été sensibilisé par ce mot. À vrai dire, c'est qu'une petite face de l'iceberg. Il faut savoir que maintenant, il continue, la marque Roundup continue. Et comme il y a le secret industriel, donc maintenant, ils mettent du vinaigre ou des extraits de géranium comme principe actif. Et le professeur Eric Seralini, qui avait déjà fait une étude à l'époque où il y avait encore du glyphosate dans le Roundup, avait montré que tous les coformulants qui n'étaient pas déclarés suite au secret industriel était 1000 fois plus dangereux. Donc là, il a refait une étude en allant chercher des bidons de Roundup, aussi bien en Pologne, je ne sais plus, dans plusieurs pays d'Europe. Et donc son étude vient d'être publiée et on voit que bon, effectivement, donc il y a le principe actif qui est très gentil, géranium, ça peut être très vert hein, les bidons, mais on a toujours les métaux lourds, l'arsenic, on a toujours des résidus pétroliers toxiques et donc qui sont, eux, mille fois plus toxiques que le glyphosate. Donc, à la limite, le glyphosate, c'était presque un prétexte pour que les gens soient au courant. Bon, ils ont pris conscience de ça, mais maintenant, je veux dire, on continue à nous enfler à droite, à gauche. Voilà.
Autrement dit, bienvenue chez les faucheurs parce que je crois qu'on a encore beaucoup de boulot devant nous. Et un petit mot de positif quand même, parce que j'avais envie de rajouter qu'actuellement, il y a encore des chiffres récents, 80% de l'alimentation qui nourrit les terriens que nous sommes tous est construite, est fabriquée et produite par le monde paysan. C'est-à-dire que toute leur saloperie, ce n'est que 20%. Donc, mais voilà, mais on parle que de leur saloperie. Donc, il faut tous, évidemment, trouver des produits chez les agriculteurs paysans bio, les AMAP, les marchés paysans, etc. S'il vous plaît, il faut vraiment boycotter tous les supermarchés.
Bon, il ne faut pas oublier là-dedans, dans le Lot, même s'il y a beaucoup d'endroits, heureusement, je veux dire, on ne cultive pas toutes ces saloperies. De toute façon, on les envoie dans la terre, parce qu'il faut quand même parler de tous ces méthaniseurs, ceux déjà qui sont déjà construits, et puis ceux en projet, parce que je crois qu'il y en aura une vingtaine. Je ne sais pas si François est là et il pourrait nous en parler. C'est-à-dire que dans ce digesta qui alimente donc ce qu'on met dans ces méthaniseurs, en dehors des camions de sang, des machins à Gramma, où il y a même les bouts d'épuration, c'est quand même donc les déjections de bestioles qui sont élevées en batterie. C'est-à-dire que déjà, elles sont bourrées de pesticides, puisqu'elles sont nourries autour de l'OGM, parce que là-dessus, d'ailleurs, c'est là encore que c'est le plus grave, parce que comme on n'a pas le droit normalement de les faire, même s'ils en font quand même un peu, on les importe en masse d'Amérique latine, entre autres. Et ça se retrouve évidemment dans le digesta, tout ça, comme les antibiotiques et tout. Et comme dans le Lot, ils sont vraiment très intelligents au niveau de la préfecture. Enfin, la préfecture, elle ne fait qu'être un emmerdeur local face à l'emmerdeur national, puisqu'il se permet d'employer tout ce mot d'emmerdeur. Donc, ils continuent à nous empoisonner après, parce que le digesta obtenu avec toutes ces saloperies, plus des fois des... Comment ça s'appelle, les machins, les microbiens, les...
Antibiotiques.
Non, ce qui reste, qui n'est pas tué, tout ça, ils vont le répandre. Donc, déjà, ils font leur méthaniseur là où il y a le château d'eau du Lot, donc toutes les sources qui vont alimenter, pour ainsi dire, presque les trois quarts du Lot. Et ensuite, ils vont le répandre sur un sol karstique, c'est-à-dire sur le cause. Le cause, on sait c'est quoi, c'est-à-dire que c'est une éponge. Et tous ces déchets, et ben, ils vont directement rejoindre la nappe souterraine. Voilà.
Juste faire une relation avec l'épisode de grippe aviaire qui est en train de se passer actuellement, où on constate que tous les élevages qui sont contaminés sont les élevages qui sont dans la filière industrielle et donc nourris au soja OGM, et que les élevages fermiers en plein air qui nourrissent avec de l'agriculture, des produits issus de l'agriculture paysanne, eux sont pas malades. Donc à un moment donné, est-ce qu'on a fait une recherche de l'effet des aliments OGM sur la capacité de réaction immunitaire des animaux? Ce serait quand même intéressant de le faire, sachant que le glyphosate est un chélateur de métaux, qu'à la base c'était utilisé pour détartrer les chaudières, parce qu'il accroche le zinc. Le zinc qui est essentiel à l'immunité. Voilà. Mais on préfère abattre tous les élevages, demander à tout le monde de rentrer ses poules, alors qu'on demande dans les classes d'aérer toutes les heures pour qu'on puisse respirer. Et ben nous, on nous demande d'enfermer les animaux pour qu'ils ne soient pas malades, en accusant les oiseaux sauvages et en ne se posant pas les bonnes questions sur la standardisation génétique, parce que là aussi, on est sur des systèmes où on veut produire la même chose dans un temps plus court. Forcément, quand on sélectionne sur un caractère génétique, on perd sur les autres. Donc on perd sur la diversité, on perd sur la rusticité. Et aujourd'hui, on a 95% des canards qui sont exactement du même type génétique. Donc une fois que le virus il a trouvé la porte d'entrée, ça se propage à la vitesse qu'on voit aujourd'hui. Mais curieusement, les petits élevages qui sont sur des souches plus locales, plus rustiques, à croissance plus lente, eh ben, eux, ils ne sont pas malades. Voilà. Donc, mais l'État préfère ne pas se poser les bonnes questions sur l'organisation de toute cette filière, montrer du doigt les petits éleveurs pour garder un système qui est la cause des maladies. Et puis demain, M. Pradier, dans un courrier qu'il a adressé aux éleveurs, a dit qu'il fallait qu'on développe un vaccin. Donc une fois de plus, on est exactement dans la même logique de traiter une maladie qu'on a créée au lieu de se poser les questions de la cause de la maladie.
François, puisque tu as maintenant des infos par rapport aux méthaniseurs.
Par rapport aux méthaniseurs, en général pour la France, il va y avoir une émission sur France 5 le 2 mai qui va parler des biocarburants et du biogaz. C'est sur l'émission sur le front. Par rapport au LOT, il est prévu une réunion à Gramma 5 ans après qui devra avoir lieu avant les législatives. Bon, on espère que les gens seront nombreux à venir. Et puis sinon, c'est toujours la merde partout. Hein.
J'ai envie de donner une petite info positive, parce que ça nous arrive aussi. Ce qui s'est passé là, dans les entrepôts de la RAGT à Rodez, là on est convoqué. Il y en a plein d'autres qui sont convoqués dans d'autres départements. C'est la loterie. On était pas loin de 15 du Lot, on est deux à être reçus pour boire un thé. Là. La voisine du gendarme, elle buvait un thé. Bon. Et en tout cas, on ne sait pas s'il y aura un procès, ça va dépendre du procureur, mais en tout cas, la RAGT a porté plainte. En 2020, fin 2020, en octobre, et il y a eu le délibéré en décembre, on a gagné un procès à Perpignan sur exactement le même type de semences. On avait détruit en 2016, alors là beaucoup plus d'ailleurs, 4 hectares de tournesol destinés à la semence, mais c'est les mêmes. Et le juge a déclaré que le semencier était un menteur. Le juge. Et non seulement on a été relaxé, mais en plus, il a considéré, et c'est dans le compte-rendu, que nous étions en état de nécessité. Donc pour ceux qui ne savent pas ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que la justice considère que, bravo les faucheurs, continuez, l'État ne fait pas son boulot, vous le faites le mieux possible, continuez. En gros, s'il y a un procès, là, il se passera la même chose. Quoi. Ça peut faire jurisprudence comme pour les demandes d'ADN. Mais il y a quand même une exception, et je voulais parler deux mots là-dessus. On était à un autre procès il y a 3 semaines à Toulouse. On avait fait la même chose dans le Lot. En 2016, beaucoup doivent le savoir, on avait peinturluré des bidons de glyphosate dans les grandes surfaces. Voilà, il n'y a pas eu vraiment de suite dans le Lot. Enfin, si, on a été convoqués pour refus d'ADN aussi, tous les deux, je crois. Mais... un procès pour nos camarades de foi avait justement abouti à des questions préjudicielles à la Cour européenne de justice qui ont abouti à ce que je disais tout à l'heure. Et donc le procès a seulement eu lieu il y a 3 semaines. Et là, il y a de quoi s'inquiéter parce que c'était un procès absolument délirant. Notre avocat, qui a une vingtaine d'années de métier, n'avait jamais vu. Il y avait une de nos anciennes avocates en retraite qui était scandalisée. La juge n'a pas voulu laisser parler les 3 prévenus, ils étaient 3 camarades d'Ariège, juste identité et puis point barre au suivant. Elle a refusé à l'avocat de poser des questions aux prévenus, ce qui est vraiment la loi. Et cerise sur le gâteau, elle a continué jusqu'à empêcher les témoins, on avait 5 témoins scientifiques, de s'exprimer. Donc là, ça a été vraiment un scandale. Je ne sais pas ce qu'elle avait bouffé, cette juge, ou si elle est dirigée par quelqu'un, on ne sait pas. Mais il y aura des suites, puisqu'évidemment, notre avocat a notifié tout ça. On appelle ça le bâtonnier est venu en prendre acte. Hein, le bâtonnier, c'est un peu la personne qui régit les avocats de tout un barreau. Et donc, on espère qu'il y aura des suites, parce que là, c'est vraiment totalement inadmissible. Si la justice tourne comme ça, si tout d'un coup, on ne peut plus faire confiance au juge du tout, et puis avec cette réélection, enfin, l'autre aurait été encore pire, mais il n'y a pas grande différence sur ce genre de sujet. Je crois que la lutte, il faut qu'elle continue dans tous les domaines. Pour le procès avec cette juge que je dénommerai véreuse, il y a un délibéré au 11 mai, donc on saura. Ah oui, j'avais oublié de dire tout à l'heure que par contre, elle a laissé évidemment s'exprimer le témoin et l'avocat de la partie civile. Mais nous, on était tous sortis de la salle d'audience, hein, nos avocats, les témoins, tout, on était nombreux dans la salle d'audience, on est tous sortis quand on a vu à quel point c'était scandaleux. Et bien sûr, s'il y a la moindre condamnation, de toute manière, on ne lâche rien, donc on fera appel et on gagnera.